Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais bien, chers frères, la parole des 10 vierges, 5 sages et 5 insensés, nous est bien connue, mais elle semble parfois pas si facile que cela à pénétrer pour savoir le côté, comment dirais-je, opératoire, intérieur et spirituel qu'il faut en tirer. Alors, pour cette raison, je vous propose de voir d'abord, dans un premier temps, essayer de définir le sens de cette parabole. Pourquoi le Seigneur raconte cette histoire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'on peut en tirer? Et dans un deuxième temps, quelque chose de plus métaphysique, si l'on veut, qui va nous concerner directement, c'est la connaissance comme étant une expérience, la connaissance du bien et du mal et la connaissance de la mort. Tout d'abord, voyons cette parabole. Cette parabole qui se présente de manière assez sympathique, on pourrait la mettre en scène facilement. C'est une parabole sur le royaume des cieux. On est bien d'accord, hein ? Le royaume des cieux est comparable. Donc si on veut comprendre la parabole, il faut tout de suite se mettre dans l'idée que ce que nous avons à comprendre, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux, le monde éternel. Voilà ce que la parabole est censée nous expliquer. Si vous attendez une autre réponse, vous allez vous fourvoyer. Si vous attendez de savoir s'il faut être sage ou pas sage, si dans la vie, si vous attendez de savoir comment il faut se marier, comment on va à des noces, eh bien, c'est une voie sans issue, vous n'allez pas avoir de réponse. La parabole des 10 vierges vient juste après la parabole des serviteurs. Alors, une erreur serait de croire que les serviteurs devaient être fidèles et les vierges sages. Alors, l'erreur serait de croire que donc les hommes doivent être fidèles, mais bien sûr qu'ils doivent être fidèles. Et puis que les femmes doivent être sages. Ce n'est pas le sens de ces deux paraboles. Ces deux paraboles concernent tout le monde. Hélas, messieurs, vous ne pouvez pas dormir aujourd'hui, sous prétexte qu'on parle de vierge sage ou vierge folle. Ce sont deux images qui parlent évidemment l'une, les serviteurs de la vie active, ceux qui font des choses en attendant la venue du Seigneur, et l'autre, c'est une image qui nous parle de la vie contemplative, où il s'agit plus d'un accueil de Dieu. Évidemment, dans nos vies, et les hommes, et les femmes, et ceux qui sont plutôt des actifs, et ceux qui sont plutôt des contemplatifs, sont concernés tous par cette disposition du cœur. Car nous avons tous affaire, même si vous étiez contemplatif ou contemplative dans un monastère, etc., vous travailleriez quand même, hein, je vous le dis, tous les jours, du soir au matin. Et nous qui sommes dans le monde, qui sommes naturellement des gens actifs, eh bien, il faut espérer que nous puissions aussi contempler Dieu, c'est-à-dire que la prière est notre première action. Voilà. Donc, mettez-vous bien dans l'idée tout de suite que cette parabole, elle est faite pour tous, elle est faite pour la dimension contemplative en nous qui doit nous parler. Mais alors, quelle est cette histoire de femmes qui s'endorment toutes et puis... Peut-être êtes-vous choqué, mais c'est fait exprès. Dans toutes les paraboles, normalement, il y a quelque chose qui doit un petit peu nous arrêter. Moi, si je lis cette parabole, je ne sais pas vous, hein, chacun, mais on peut s'étonner de savoir le peu de charité de ces femmes, finalement, je parle des sages, qui, quand l'époux vient au milieu de la nuit, elles ont des lampes et elles ont pris de l'huile, et puis elles demandent aux autres, prêtez-nous un petit peu d'huile. Et vous avez vu la réponse, c'est non. Alors, sont-elles vraiment sages? Sont-elles charitables? Voilà. Eh bien, évidemment, il s'agit d'une allégorie. Je vais suivre Saint-Hilaire, un grand saint français, un docteur de l'Église, hein, Saint-Hilaire de Poitiers, et Saint-Augustin qui ont eu à peu près la même vision de cette parabole. Il ne faut pas forcir ce que je vais vous dire, mais c'est une tentative d'explication. Les lampes, ce qui brille chez ces femmes, c'est leur âme. C'est leur âme même éclairée par la foi. L'huile qui permet que ça continue, c'est le fruit de leurs bonnes œuvres. C'est le fruit de leur charité. Vous commencez à comprendre. Le vase qui porte cette lampe, c'est mon corps. Les marchands à qui elle conseille aux autres qui n'en ont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas de charité, celles qui n'ont pas pensé à faire de bonnes œuvres, celles qui n'ont rien dans leur panier, eh bien, elle leur donne un conseil sensé. Allez vous en procurer chez les marchands. Les marchands, dit Saint-Hilaire, ce sont les pauvres. Ce sont les pauvres qui ont besoin des bonnes œuvres et qui vous remplissent de la charité que vous leur faites. Voilà pourquoi, vous le savez, quand on fait du bien à quelqu'un qui en a besoin, et les pauvres, il y a des pauvres spirituels, des pauvres matériels, il y a toutes sortes de pauvretés, c'est vous qui vous enrichissez. On a ramené, vous savez, cette expression commune « qui paye ses dettes s'enrichit » à quelque chose de vulgaire et de commercial, mais il y a quelque chose de vrai. Quand vous donnez, vous vous enrichissez infiniment. Les noces du royaume, c'est l'entrée dans l'immortalité. C'est l'entrée avec Dieu. C'est notre mariage éternel. C'est là où nous devons vivre, car nous sommes faits pour nous marier. Nous sommes faits pour n'être pas seuls, pour n'être pas des réprouvés, pour n'être pas abandonnés. Nous sommes faits pour vivre avec Dieu. Le sommeil dans lequel toutes vont entrer, celles qui sont sages, celles qui sont insensées. C'est le sommeil de la mort. C'est pour ça qu'on a eu l'épître aux Thessaloniciens dans la deuxième lecture qui nous prévient. Ne soyez pas déboussolés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, comme ceux qui sont insensés, qui ne savent pas où ils vont. Malgré tout, que vous ayez la foi, a priori, ici, nous avons la foi, ou que nous ne l'ayons pas, nous sommes déboussolés devant la mort, nous sommes bouleversés, évidemment. Tous vont passer par le sommeil de la mort. Enfin, dit Saint-Hilaire, celles qui, la lampe à la main, viennent à la rencontre du Seigneur, de nouveau, même après la mort, c'est l'âme qui retrouve la personne et le corps. Voilà le sens profond, voilà pourquoi le début de la parabole était un avertissement. Je vais vous parler du royaume des cieux. Je ne vais pas vous parler de l'organisation matérielle, de noces ou de ce qu'il faut faire dans la vie. C'est second. Ce qui est premier ici, c'est la rencontre avec Dieu. Alors c'était mon premier point pour essayer d'éclaircir cette parabole. Vous pouvez avoir d'autres images. Ce que je vous dis là n'est pas la foi de l'Église au sens où c'est un dogme. Mais c'est une méditation profonde de saint Augustin et de saint Hilaire. C'est pas rien, des docteurs de la foi, des docteurs de l'Église, des pères de l'Église même, qui nous ont introduits dans le sens même de la parole de Dieu. Alors, maintenant pour nous, quelle expérience faire à la lecture de ces paraboles, de cette parabole? Deux expériences, celle du bien et du mal, et celle de la mort. Dans la Bible, on appelle ça la connaissance. On est devenu un peu trop intellectualiste aujourd'hui. Quand on parle de connaissance, on pense de connaissance livresque. Je connais bien ce livre, à telle page, c'est marqué ça. Bon. Mais ce n'est pas ça d'abord, la connaissance. La connaissance, c'est l'expérience d'une chose. Si vous dites que vous savez parler telle langue étrangère, ça veut dire pas seulement que vous savez, si vous dites je connais l'allemand, ça ne veut pas dire que vous connaissez la page dans laquelle il est marqué, je ne sais pas quoi, ça veut dire que vous pouvez le parler. C'est une expérience, la connaissance. Quand on connaît vraiment quelqu'un, ce n'est pas qu'on a fait une fiche de renseignement sur ses goûts, sa taille, etc. Même si ça peut être utile. Mais c'est qu'on connaît quelqu'un, c'est qu'on vit avec quelqu'un, on le connaît intimement. Quand il est écrit dans la Genèse que Adam connut sa femme, et c'est qu'ils vécurent et couchèrent ensemble. La connaissance, c'est quelque chose d'expérientiel. Alors voilà, il nous faut connaître le bien et le mal. C'est le discernement dont il est question dans le livre de la Sagesse que vous avez entendu. Il nous faut connaître ce qui est bien, car ce qui est bien vient de Dieu, lui qui est le bien suprême. C'est notre bien, Dieu. C'est le bien auquel je suis destiné de toute éternité. Dieu a fait une multitude d'êtres pour lui, pour qu'il le voit. Dieu n'est pas un mauvais père qui a créé des hommes, les uns pour être sauvés et puis les autres pour être réprouvés. Non, Dieu nous aime tous, voilà pourquoi venir à cette assemblée dominicale, c'est pas une question de carte d'entrée, de je ne sais quoi, de club. Vous le savez, toutes les chaises vides, ce sont des âmes qui nous manquent. Ce sont des gens qui nous manquent énormément, car tout le monde, tous les gens qui habitent autour de cette église, tous les gens que vous connaissez dans votre famille, tous vos amis, sont tous invités ici. Le royaume de Dieu est fait pour tous. Mais voilà, il nous faut opérer un discernement. Le discernement, c'est-à-dire connaître le bien. Il n'y a que la connaissance du bien qui va nous apporter la vie. Parce que le mal n'est qu'une privation d'être. Le mal, c'est une absence de bien. Le mal, c'est une absence de vie. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Le péché n'est malheureusement que la réalisation dans mon être bon de quelque chose qui ne lui est pas destiné. Je ne suis pas destiné à tuer des gens. Je ne suis pas destiné à mentir. Je ne suis pas destiné à vous frapper. Grâce à Dieu. Nous sommes tous destinés au bien et c'est ce bien qui nous fait vivre. C'est Dieu qui nous fait exister. Et cette existence que nous menons ici, nous allons la mener éternellement. Car le bien va exister toujours. Je vous ramène, ou je vous amène, à la dernière phrase de la parabole. Les insensés, qui n'avaient pas d'huile, arrivent en retard et elles frappent à la porte. Quelle est la réponse qu'il aurait faite? La pire réponse qu'il y a dans toute la Bible, qui revient souvent. Le Seigneur, parfois, n'est pas tendre, hein, avec les pharisiens, il les insulte, voilà. Mais la pire du pire du pire des réponses, c'est celle-ci. « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen. » Je vous le dis, c'est-à-dire en vérité, oui, je le dis et je vous le redis, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, Dieu ne nous connaît pas, Dieu n'a pas d'expérience avec nous, Dieu n'a pas de vie commune avec nous. C'est la pire des condamnations. C'est-à-dire que Dieu, qui est le seul être véritablement vivant, éternellement, ne nous connaîtrait pas si nous ne vivons pas de bien. Dieu n'a pas maille à partir avec nous. Dieu n'a pas de connaissance avec nous. Dieu n'a pas de vie avec nous. Je ne vous connais pas, c'est-à-dire, vous ne vivrez pas. Et il m'appartient, mes bien chers frères, de ne pas vous cacher la vérité. Je pourrais vous le dire d'une manière plus positive, mais ça veut dire la même chose. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Tout le reste va disparaître. Toutes nos disputes, toutes nos mauvaises volontés, tous nos péchés, tout ça va disparaître parce qu'en fait, ça n'existe pas vraiment. Hein. Éternellement, il ne va subsister que le bien. Je serai jugé sur l'amour. Plaise à Dieu que j'ai pu aimer vraiment. Parce que si je n'ai pas connu l'amour, si je n'ai aimé personne, si je n'ai jamais fait le bien, je n'existerai pas. Voilà ce qui va se passer à travers la connaissance de la mort. La mort nous est destinée à tous, aux bons et aux méchants, aux saints et aux réprouvés. Tout le monde va connaître ce passage de la mort. Mais voilà, et cela nous angoisse, hein, vous ne savez ni le jour ni l'heure, nous dit l'Évangile. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, ça a deux sens. On n'en voit toujours qu'un en général. Le premier, c'est qu'on ne sait pas quand je vais plonger dans la mort, quand je vais plutôt plonger dans l'éternité. Vous le savez, ma mort, à moi, la vôtre aussi, c'est la fin du monde pour moi. Hein. C'est-à-dire, c'est la fin de mon monde. Moi, je suis né en 1968. Et les hommes peuvent avouer leur âge plus facilement, paraît-il. Bon. Alors, je suis né en 68, j'ai failli mourir en 89, j'ai failli remourir en 2006. Bon, je ne suis pas mort encore. Mais ça va venir, pas d'angoisse. Enfin, ou plutôt, si, c'est angoissant, mais ça va venir. Quand? Je ne sais pas. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais l'autre sens, c'est que vous ne savez pas ce qu'est non plus le temps de Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mettre une main sur ce qui se passe après. On aimerait bien, hein. On interroge ceux qui font des expériences de mort imminente, c'est très à la mode. Voilà. Ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est pas toujours des croyants, hein, c'est pas toujours des gens... Mais ce qui est intéressant, c'est que tout concorde. C'est-à-dire, leur témoignage, des Américains, des Russes, des Africains, tout le monde, et tout le monde raconte un peu la même chose. La lumière, la lampe qui revient avec la lumière de Dieu. Puissions-nous la trouver? Parce que je ne peux pas avoir une main dessus. Je ne peux pas par avance me dire, moi je sais, Je suis prêtre, alors j'ai fait des études là-dessus, très bien. Hein. Je sais ce que c'est que la vie intérieure avec Dieu, le temps... Non, je ne sais pas. Moi non plus. Notre expérience, elle se fait maintenant. La vie éternelle, elle commencera... Elle a déjà commencé, pardon, au jour où vous avez été plongé en Dieu par votre baptême. Et ceux qui ne sont pas baptisés, elle commence, en quelque sorte, elle recommence à chaque fois qu'ils entrevoient dans leur conscience le bien à réaliser. Voilà la vie éternelle, mes bien chers frères, je n'ai pas d'autre chose à vous dire que la vie éternelle est déjà commencée, que le bien dont vous vivez maintenant, c'est le bien dont vous vivrez éternellement. C'est pour ça que nous ne serons pas tous pareils au ciel, car nous n'avons pas tous vécu le bien identiquement. Mais rassurez-vous, ne soyez pas bouleversés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Un cri va retentir au milieu de la nuit, comme pour ces femmes. Lorsque nous serons endormis dans le sommeil de la mort, un cri va retentir. Venez à la rencontre du Christ. Le cri qui est raconté ici, le cri du Seigneur qui dit à Lazare, avec une voix forte, « Viens dehors, reviens à la vie. Cette vie nous attend, cette vie a déjà commencé. Ayez soin de votre vie éternelle, car c'est dès maintenant que vous en vivez. » Ainsi soit-il.